reviens un instant sur l'individu, puisqu'on m'a posé une question, en disant tout ce que vous avez dit au cours sur l'individu n'implique pas la substance. Alors j'ai dit non, puisque l'individu implique justement de ne pas être divisé et d'être divisé des autres, aliquid. Il est indivis. Or, la quantité n'explique pas la division. La quantité explique au contraire le divisible. Or, ce qui est premier dans l'individu, c'est d'être indivisé, d'être un. Quand je dis je suis indivis. Et ceci relève de la substance. C'est la substance qui rayonne dans la matière et dans la quantité. C'est la substance qui s'empare de la matière et de la quantité. Vous voyez, ces deux problèmes que nous avons vus à la suite de la découverte de l'ousia, le problème de la subsistance, c'est la substance relativement à l'essai. Et le problème de l'indivision ou de l'individu, c'est la substance qui, de fait, informe la matière. La substance forme, puisqu'elle est principe selon la forme. Elle informe la matière. Elle la rend indivisible. Rayonne jusque dans la quantité. Et cette indivision dans la quantité fait que l'individu est divisé des autres, séparé des autres. Et c'est pour ça que la quantité est bien la ratio individuationis, la manifestation de cela. Alors, il y a un troisième aspect que nous devons maintenant découvrir. La substance impliquant la matière et subsistant dans la matière fait que la substance va devenir sujet. Sujet des autres attributs. Alors, c'est très curieux de noter cela, que dans la scolastique décadente, très très vite, à partir de Suarez, la substance a été considérée comme suppos, sujet. C'est très vrai que dans un Thomas, constamment on passe de l'un à l'autre. On est en théologie. Le théologien a ce privilège qu'il s'appuie sur la foi. Donc, il a un regard infiniment élevé. Et peut, par le fait même, se servir de la substance, non pas au niveau du principe, mais au niveau du pose. Et vous comprenez pourquoi? Puisque le théologien ne peut pas dire ce qu'est Dieu, mais comment il est. Quand le théologien dit que Dieu est absolument simple, il montre la manière d'exister de Dieu. Il ne dit pas ce qu'est Dieu. Dieu a ce privilège, parce qu'il est premier, d'exister d'une manière absolument simple. C'est pour ça que sa substance est tout à fait simple. Je ne dis pas ce qu'est la substance en disant qu'elle est tout à fait simple. Et je montre sa manière d'exister. Et parce que Dieu est tout à fait simple, sa substance n'est pas sujet. Il ne peut pas y avoir en Dieu d'accident. Son être est absolu. Dieu n'est en rien sujet. Et c'est pour ça que notre manière de parler, en disant Dieu est simple, risque toujours de nous mettre dans un point de vue imaginatif et erroné. Parce que nous employons un langage qui n'est pas adéquat à Dieu. Notre langage n'est pas divin. Si notre langage était divin, on ne pourrait pas se servir d'attribution quand il s'agit de Dieu. Puisque Dieu est tout à fait simple. Et mon langage, quand il s'agit de Dieu, est complexe. Donc chaque fois que je me sers d'un langage complexe pour Dieu, Dieu est saint. Dieu est intelligent, Dieu est vie, Dieu est amour, toute la révélation, quoi. Je suis. Tout ça trahit la simplicité de Dieu. Dieu est au-delà de toutes ses compositions. Mais notre manière de parler ne peut pas employer un autre langage. Parce que la foi ne transforme pas ma manière de connaître. Ma foi me donne un nouveau jugement d'existence, mais ne me transforme pas ma manière de connaître. J'exprime ce jugement à l'égard de Dieu à la manière dont j'exprime ceci est. Ça, c'est capital, c'est tout le hiatus entre notre manière de parler et la réalité. Ceci est déjà vrai en métaphysique. Notre langage n'est pas métaphysique. Les modernes voudraient, et ça c'est le défaut de la phénoménologie, qu'on ait un langage métaphysique, qu'on ait un langage éthique, qu'on ait un langage, vous voyez, comme pour les sciences, vous avez un langage mathématique qui n'est pas le langage physique. Vous avez un langage biologique qui n'est pas le langage au sens strict de la physique. Chaque science a son langage. On voudrait que la métaphysique ait son langage. Or, la métaphysique n'a pas de langage propre. Et la philosophie n'a pas de langage propre. Alors ça irrite terriblement les phénoménologues. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais faites une fois l'expérience. Je l'ai faite à Fribourg quand j'ai accepté à un congrès phénoménologique de venir faire une conférence. J'avais prévenu. Là, j'avais à côté de moi Lévinas qui bondissait. Parce que j'avais dit au point de départ, j'emploierai un langage philosophique et le langage de tout le monde. Le philosophe doit employer très peu de mots qui ne sont pas les mots de tout le monde. Aristote en a inventé deux. Alors regardez tous les mots qu'on a inventés pour essayer d'exprimer, d'avoir un langage philosophique. C'est faux. Il n'y a pas de langage philosophique. Il y a une pensée philosophique. Il y a une pensée métaphysique qui est distincte de l'éthique. C'est le même langage. Je dis le bien en métaphysique comme en éthique. Je dis l'acte en métaphysique comme éthique. Ça, pour quelqu'un qui est formé à la méthode phénoménologique, c'est déboussolant. Je dis, mais pourquoi? Parce que justement, votre manière de connaître est toujours la même. Et votre langage relève non pas de votre pensée métaphysique, de votre pensée philosophique, mais du langage de tout le monde. Le langage est fait pour la communication. Mais je précise ce qui est en tant qu'être. Là, je formalise. pensée fait me logique. Je voudrais adapter ma pensée à mon langage. Et c'est pour ça qu'on fait une philosophie du langage. Une philosophie du langage, pour un philosophe réaliste, c'est fait très vite. Le langage symbolone, symbole de ma pensée. Et le langage se réfère à ma pensée. Il est tout entier tourné vers la pensée. Et la pensée regarde le réel. Parce que le langage ne regarde le réel qu'à travers ma pensée et pas directement. Alors, Lucia. La substance. Je reviens toujours et je dois tout le temps employer le mot grec parce que l'étymologie de substance et l'étymologie de ousia sont totalement différentes. Mais c'est là où je vois très bien que mon langage n'est pas adéquat à ma pensée. Ousia. existence. Individuation. Seule la substance est un individu. Oui, alors là, je suis en face, vraiment. C'est la substance qui assume la matière. Ici, je regarde son individuation métaphysique. dans une perspective logique. C'est pour ça que dans la scolastique décadente, on est resté dans un point de vue logique. On a regardé la substance dans son point de vue logique. Elle est sujet, des attributs. Et on a pris tout de suite la substance première d'Aristote. Et dans saint Thomas, encore une fois, dans saint Thomas, saint Thomas ne crie pas gare. Il se sert de la logique, de la critique, de la métaphysique. Parce que le théologien peut le faire. Mais peut-être que le théologien, aujourd'hui, après Occam, après Descartes, après Kant et Hegel, le théologien doit faire beaucoup plus d'attention. Et montrer quand il se sert de la logique, il a le droit. Quand il se sert de la métaphysique, au point de vue de la sagesse, il doit être plus attentif. C'est pour ça que quand vous prenez du saint Thomas et que vous le lisez à des gens un peu cultivés, ils disent « Mais il comprend rien, c'est une mélasse. » Parce qu'il voudrait qu'on précise, là, le théologien se sert de la logique. Là, le théologien se sert de la critique. Là, le théologien se sert de la métaphysique. Saint Thomas le fait, lui, avec son intelligence extrêmement rapide. Il le fait comme ça. Sans crier gare. Et que dans notre monde d'aujourd'hui, puisque nous sommes beaucoup plus critiques, nous avons besoin de préciser. Moi, ça ne me gêne pas du tout de lire Saint-Thomas comme ça. Parce que je sais que Saint-Thomas fait ça. Donc c'est pas gênant. Mais pour le comprendre, on doit pouvoir appuyer, voyez, sur des postes différents. J'appuie sur la métaphysique, j'appuie sur la logique, j'appuie sur la critique. Je sais que là, il y aura une théologie qui sera la foi qui se sert de la métaphysique. Qui se sert. Et tout cela dans une vision de sagesse. C'est là la complexité de la pensée de saint Thomas pour les modernes. Ça, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas ça, vous ne ferez jamais comprendre à un moderne ce que c'est que saint Thomas. Tandis que si vous le comprenez vous-même, ayant au point de vue philosophique vu la différence entre l'aspect pré-philosophique des prédicaments et l'aspect de l'analyse métaphysique, principe, cause, individu, sujet. Ah, alors à ce moment-là, bon, très bien. Voyez successivement ce qu'est la substance. Ça fait la découverte de la substance comme principe, c'est quelque chose de capital. Après, cause qui subsiste. Après, individuation qui assume la matière par la quantité dans la quantité. Alors maintenant, nous allons au point de vue métaphysique comprendre comment la substance rayonne dans l'individu. C'est-à-dire dans l'homme. Comment la substance est source et sujet. Pierre, où je suis. Vous pouvez entrer dans le jeu. Alors, ici, un petit problème qui se pose tout de suite. Je reviens à l'expérience, puisque j'essaie de comprendre concrètement, Pierre, individu, implique des déterminations que je peux expérimenter. Alors, la table des prédicaments, des 9 prédicaments, puisque je prends les 9, la substance seconde, je n'en ai pas besoin. Puisque nous avons vu ce que c'était que la substance. Je peux ou prendre un ordre. C'est intéressant à réfléchir, point de vue méthode. La quantité, la qualité, la est-ce que je vais prendre cet ordre d'Aristote par fidélité à Aristote? Eh bien, non. Je ne prends pas cet ordre-là. Pour beaucoup de raisons. Aristote n'a jamais fait d'études métaphysiques des prédicaments. Il s'est contenté de la substance. Je comprends. Alors, on pourrait s'arrêter maintenant, nous aussi. Bien non, je crois que nous devons compléter au plan métaphysique et avoir une certaine vision métaphysique de la relation, de la qualité, de la quantité. Et laisser les autres à la philosophie première de l'être en acte. Les autres prédicaments, je les étudie du côté de l'être en acte. Puisque de fait, la métaphysique implique deux grands aspects. Métaphysique de la substance, métaphysique de l'être en acte. qui est très intéressant dans ce point de vue des prédicaments reliés à la substance, c'est que je vois la substance dans ses effets. Comment la substance rayonne-t-elle dans la qualité, dans la quantité, dans la relation? Il est évident que qualité, quantité me montre davantage le rayonnement de la substance que la relation. Mais, au point de vue de ma connaissance métaphysique, je mets tout de suite la relation. Parce que, de fait, je vois qu'il y a deux métaphysiques. Tu vois, que on a essayé de faire une métaphysique de la relation. Les succès d'années de la philosophie hegelienne aboutissent à une philosophie de la relation. Hamelin, philosophe, est philosophe de la relation. Et comme philosophe de la relation, il montre bien que la substance, c'est un X inconnu, un sujet inconnu, qu'il faut laisser tomber. Et qu'il s'agit de comprendre l'individu, la personne humaine, par la relation. C'est la seule chose intéressante. Ça, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, beaucoup définissent la personne par la relation. Nedroncel, qui était philosophe à Strasbourg, le père Nedroncel, qui était un très saint homme, il avait cette conviction intérieure que la personne, c'est la relation.
C'est son intuition. C'est pas la substance, c'est son intuition. Pas du tout.
saint Thomas définissait les mathématiques par la quantité, et nous, nous devrions définir les mathématiques par la relation. Sans oublier la quantité, mais c'est la relation qui formalise. Les mathématiques, c'est le domaine d'une métaphysique relative. Tout est pensé au niveau relation. Donc, on voit que la relation joue un rôle capital dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas nier. Un rôle primordial. La pensée moderne est une pensée qui se situe au niveau relation. La pensée des anciens se situe au niveau de la substance. C'est pour ça qu'on a beaucoup de peine d'entrer dans le problème de la substance. On devrait peut-être commencer la métaphysique par la relation. Pour être plus proche. Mais le danger, c'est que si je regarde la relation sans avoir compris ce que c'est que l'être, alors je ne comprends pas ce que c'est que l'être par la relation. Je ne peux le comprendre qu'en voyant quelque chose qui est radical, fondamental. Mais la pensée moderne, elle est dans la relation. Ça, c'est bien évident. C'est pour ça qu'il y a un problème extrêmement important. Une fois qu'on a saisi la substance, c'est de voir tout de suite le lien entre la substance et la relation. C'est le problème le plus brûlant. Le philosophe aime toujours les problèmes qui exigent une très grande pénétration. C'est moderne qui est entièrement dans la relation. Il faut essayer de voir le lien qui existe entre relation et substance.